Là, déjà un peu plus de 24 heures que la retraite a commencé. J'espère que vous êtes bien rentré dans cette retraite et qu'elle se poursuit sans trop de difficultés. Alors, essayons de poursuivre évidemment ces sujets que nous traitons, qui sont là bien sûr pour éclairer, rappeler des souvenirs de catéchisme, ou en tout cas éclairer votre foi, et ensuite évidemment cette foi doit se transformer en charité, donc voir comment ensuite mieux servir le bon Dieu. Donc on sait que l'homme est fait pour Dieu et que ce sera son bonheur, ou c'est notre bonheur, être fait pour Dieu. Bon, Dieu nous a créés pour lui, mais en même temps cela est notre bonheur. Mais vous avez aussi notre Seigneur qui nous dit, dans sa belle prière sacerdotale, donc après la scène et avant son agonie, vous trouvez au chapitre 17 dans Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, versets 3 et ensuite 24. Voilà ce que dit notre Seigneur. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Et au verset 24, Père, ce que vous m'avez donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la fondation du monde. Voyez où nous appelle notre Seigneur, d'être avec lui, lui qui est Dieu. Mais cette destinée où nous sommes appelés, donc être avec Dieu, dépasse évidemment les exigences et possibilités de notre nature. Concrètement, comment aller à Dieu? Comment être avec Dieu? Pour vous faire prendre un exemple, pour comprendre un petit peu ce problème, donc je reviens à vos chers animaux domestiques, que vous ayez un chat ou un chien. Et que vous lui disiez un jour, eh bien, écoute, Minou, qu'est-ce que tu en penses? Le beau, est-ce que c'est la splendeur du vrai? Est-ce que c'est ça? Alors, le chat ou le chien, ils vont vous lécher. Mais la dissertation sur le beau splendeur du vrai, vous n'allez rien en obtenir. Parce que c'est pas de leur niveau. Évidemment, c'est au-dessus. Ils n'ont pas cette âme rationnelle, cette âme raisonnable. Pour eux, c'est quelque chose d'impossible. Ils ne peuvent pas disserter sur le vrai, le beau, le bien, etc. C'est impossible. En effet, rappelez-vous que dans la vie naturelle, on distingue la vie végétative, la vie sensitive et la vie rationnelle. Donc l'homme possède les trois, hein, évidemment, notre âme possède les trois. La vie végétative, c'est-à-dire il grandit, hein, comme les plantes, hein, nous, comme les plantes, nous grandissons, hein, etc. Vie sensitive, ce sont les animaux, comme eux nous sentons, nous avons la sensibilité. Mais en plus, nous avons évidemment la vie rationnelle, nous raisonnons, nous avons une intelligence, une âme raisonnable. Donc ceci, bien sûr, la raison à la différence des plantes et des animaux. Les animaux ont un instinct qui peuvent qui les guide d'ailleurs dans la vie, éviter le mal, ce qui peut leur faire un danger, ce qui peut être un danger pour eux, mais ils ne raisonnent pas, évidemment. Un animal ne réfléchit pas. Donc voyez, passer d'un ordre à un autre, un animal faire des actes d'un homme, des actes rationnels, c'est pas possible. Alors, eh bien, j'en arrive là, nous, est-ce que nous pouvons aller à Dieu? Or, Dieu est infiniment au-dessus de la nature humaine. Infiniment. Hein, toute la différence dont on a déjà parlé entre le Créateur et la créature. Dieu est infiniment au-dessus de nous. Alors, ce qui fait déjà, donc d'emblée, on peut dire que l'homme ne peut pas, par ses propres forces, s'élever à l'ordre surnaturel. Déjà. Effectivement, par nos propres forces, c'est strictement impossible. Comme votre chat ou votre chien ne peut pas raisonner sur le beau. C'est pas possible. Il ne peut pas raisonner. Donc d'emblée, effectivement, nous aussi, l'homme, nous ne pouvons pas nous élever par nos propres forces à la vie surnaturelle, c'est-à-dire avec Dieu. Alors la question qu'on se pose, eh bien, comment entrer dans la société divine pour être éternellement heureux? Puisque notre Seigneur nous en parle, il demande à son Père que nous soyons avec lui. Alors comment entrer dans cette société divine? Comment faire? Qu'est-ce qui va nous permettre d'y arriver? Alors vous avez un... tiré d'une conférence du Père Lacordaire. Nous sommes dans la maison Lacordaire, donc ça tombe bien ici à Flavigny. Voilà ce qu'il dit, poser ce problème. L'homme et Dieu doivent se rencontrer quelque part et quelque jour. Ils doivent se reconnaître et Dieu ouvrir à l'homme le sein profond où il fut conçu dans l'amour. Cette union, nécessaire à l'accomplissement de notre destinée, entraîne avec elle cette conséquence que l'homme doit prendre en Dieu quelque chose de la nature divine. Car deux êtres qui n'ont rien de commun ne sauraient s'unir entre eux. Évidemment, Dieu nous dit notre destinée c'est d'être avec Dieu, mais pour y arriver, il faut que nous ayons quelque chose de commun avec Dieu. De même donc que Dieu s'est fait homme par l'assomption de l'humanité, il a pris l'humanité, l'homme, pour entrer en jouissance de Dieu qui est sa fin dernière, doit à son tour revêtir en quelque sorte la divinité. Oui, c'est très logique. Dieu effectivement a pris notre humanité, mais nous, si nous voulons être unis avec Dieu, il va falloir que nous prenions quelque chose de sa divinité. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce qui va nous permettre ainsi d'être unis à la divinité? Eh bien, c'est la grâce. C'est la grâce qui va nous faire participer à la nature divine. Voilà la grâce. Et voilà donc le sujet de cette conférence. La grâce, nous en connaissons par notre catéchisme toujours la définition. Nous disons que c'est un don surnaturel que Dieu nous accorde gratuitement en vue des mérites de Jésus-Christ pour nous faire opérer notre salut. Voilà ce que nous avons sans doute appris un jour. Ce don que Dieu nous accorde gratuitement. Alors nous faisons aussi souvent, quand on parle de la grâce, une distinction habituelle pour mieux cerner ce qu'est la grâce. On va parler de la grâce habituelle ou grâce sanctifiante qui affecte la substance de l'âme et qui va l'élever de manière permanente. C'est ce que nous allons voir dans une première partie. Et puis la grâce qu'on appelle actuelle qui aide l'âme d'une manière passagère dans ses opérations, sans l'affecter dans sa substance. Et nous verrons ça en deuxième partie. Alors la grâce habituelle, ou sanctifiante, ou encore ce que nous appelons l'état de grâce. Eh bien, comment notre Seigneur a-t-il expliqué ce qu'est la grâce? Évidemment, ce n'est pas une invention de l'Église, ce n'est pas une invention des hommes. Ça vient bien de notre Seigneur de Dieu, tout simplement. Eh bien, comment dans sa vie a-t-il expliqué la grâce? Eh bien, il a pris des exemples pour en montrer les effets. Donc, je vais commencer par là, justement, voir ce discours que vous connaissez de notre Seigneur, où il prend un exemple pour montrer ce qu'est la grâce. Et avec ça, vous verrez qu'à partir de cet exemple, eh bien, on voit parfaitement les effets de la grâce. L'exemple qu'il a pris, c'est lors de son discours avec cette femme, la Samaritaine. Il va prendre l'exemple de l'eau. Alors, ce discours avec la Samaritaine, vous trouvez dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Alors, je vous lis au moins le passage, où je vous rappelle ce passage, cet épisode de la Samaritaine. Donc Jésus, fatigué par la marche, tenait donc assis près du puits. C'était environ la sixième heure, donc à peu près midi. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, vous qui êtes juif, vous me demandez à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Entre parenthèses, effectivement, c'était la haine tranquille entre les deux peuples. Bon, rien de nouveau, hein, mais effectivement, ils ne s'entendaient absolument pas. Hein. Donc la Samarie, c'était au nord de Jérusalem. Donc tout simplement parce que les Samaritains étaient en réalité, descendaient, c'était des peuples babyloniens qui s'étaient mélangés avec des peuples locaux d'anciens juifs, et ça avait donné une religion un peu mitigée. Donc, ils avaient entre paganisme et des restes de judaïsme, donc ça avait donné un peu une religion un peu particulière. Donc c'était évidemment la lutte entre ces deux peuples. Donc la femme samaritaine est surprise que Jésus, un juif, lui parle. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond. D'où avez-vous donc l'eau vive ? Seriez-vous plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donnez-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que vous êtes un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et puis ensuite, la femme, les apôtres viennent, etc. Donc, magnifique discours avec cette Samaritaine. Vous voyez, notre Seigneur l'amène à se convertir, tout simplement. Elle mène une vie qui n'est pas très réglée, hein, c'est clair. Et notre Seigneur lui enseigne en même temps, justement, cette grâce. Et vous voyez comment notre Seigneur explique la grâce. Il prend l'exemple de l'eau. Voilà comment notre Seigneur explique les effets de la grâce. D'abord, notre Seigneur lui dit, si tu savais le don de Dieu. Donc, la grâce, c'est vraiment un don de Dieu. Le don le plus précieux, le magnifique, le plus nécessaire, le plus gratuit de tous les dons, c'est la grâce. Comme on dit, don surnaturel, effectivement. Donc, vous voyez, notre Seigneur le dit bien, si tu savais le don de Dieu. Donc, vraiment, considérez déjà la grâce comme un don immense. Et pourquoi notre Seigneur compare la grâce donc à l'eau ? Vous voyez, tout tourne autour de l'eau. Eh bien, parce qu'elle produit spirituellement tous les effets de l'élément liquide dans l'ordre matériel. Vous allez voir les effets qu'on peut voir dans de l'eau. Eh bien, la grâce les produit de manière spirituelle. En effet, on peut dire que l'eau purifie. Elle rafraîchit, elle désaltère et elle féconde. Évidemment, de manière matérielle, c'est vrai, l'eau purifie, rafraîchit, désaltère et elle féconde. Alors, eh bien, on peut appliquer cela à la grâce, aux effets de la grâce. L'eau, d'abord, purifie. Elle purifie ce qui est souillé et lui rend sa netteté. Évidemment, vous êtes habitué à faire de la lessive, mais c'est clair. Donc l'eau purifie, et on va se laver, quand on est sale, on va se laver, ben, c'est sûr. Donc elle purifie, et elle rend la netteté, elle rend le linge propre, elle nous rend propre, tout simplement. Bon, c'est facile à comprendre. Eh bien, c'est le symbole, si vous voulez, de la purification intime opérée par la grâce. La grâce qui va nous purifier, qui fait disparaître les souillures du péché et qui va rendre à l'âme son éclat. Son éclat. Donc, elle enlève le péché. C'est ce qu'on appelle la justification. Justification du pécheur. C'est ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire, on devient juste. Justification, on devient juste. Donc, vraiment, la grâce nous rend, comme on l'a dit, nous rend purs, nous rend saints, tout simplement. Elle nous purifie. Déjà, là, il y a une grande différence, par exemple, avec les protestants, qui, pour eux, la justification, notre âme ne devient pas sainte, ne devient pas pure, mais c'est juste, on est couvert par une espèce de manteau, mais on garde la souillure. Donc, il suffit de croire à Jésus, à notre Seigneur, et puis voilà, c'est tout. Bon, ce qui est faux. Vous voyez, premier effet de l'eau, vous voyez là, l'exemple que prend notre Seigneur, effectivement, l'eau purifie, eh bien la grâce aussi nous purifie. Ensuite, on dit que l'eau tempère la chaleur. Elle rafraîchit l'atmosphère. La preuve, quand il fait chaud, ben oui, on aime avoir de l'eau. Eh bien, on peut y voir le symbole précisément de la grâce, qui est un peu cette rosée céleste qui amortit l'ardeur des passions et qui diminue peu à peu, sans toutefois l'éteindre complètement, la fièvre de la concupiscence. Tous ces mauvais désirs que nous avons en nous, eh bien la grâce va diminuer un peu l'ardeur de ces mauvais désirs, tout ce qui grouille en nous. Eh bien, comme l'eau rafraîchit, eh bien la grâce aussi tempère cette fièvre des passions. Ensuite, on peut voir aussi, comme je disais, que l'eau désaltère, elle calme la soif. C'est vrai que lorsqu'on a soif, c'est la meilleure chose pour se désaltérer, c'est de l'eau. Bon, le coca, non, ça fait peut-être bien, du bien au gosier quand ça descend, mais en réalité, ça ne désaltère pas. C'est sucré, Non, si vous voulez vraiment vous désaltérer quand vous avez soif, il faut prendre de l'eau, tout simplement. Pour mettre des zestes de citron ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est l'eau qui désaltère, ça c'est certain. Et elle calme la soif. Eh bien, c'est l'image de la grâce qui étanche un petit peu la soif inextinguible du cœur humain. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés pour le bonheur. Donc, l'homme tend sans cesse vers le bonheur. Mais malheureusement, trop souvent, il va chercher le bonheur dans des biens terrestres, dans des biens périssables, où il va aller chercher dans des jouissances sensibles qui, en réalité, ne font qu'irriter un petit peu cette soif de bonheur au lieu de l'apaiser. Alors qu'en réalité, c'est la grâce qui va apaiser, qui va donner ce véritable bonheur à l'homme. Et ça s'explique d'ailleurs notre Seigneur à la Samaritaine, ce que je vous ai lu. Donc, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, donc de l'eau naturelle, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Oui, notre Seigneur dit, la grâce, nous n'aurons plus jamais soif. Pourquoi ? Parce que nous serons rassasiés de ce bonheur, nous serons désaltérés, nous aurons le vrai bonheur. Donc, l'eau désaltère, et bien la grâce aussi nous donne ce véritable bonheur, la présence de Dieu tout simplement. Et puis enfin, l'eau, comme je disais, féconde, c'est-à-dire merveilleuse fécondité de l'eau. En effet, où l'eau abonde, eh bien, vous voyez, la terre est verte, les fleurs s'épanouissent, les fruits sortent, etc. S'il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse. Et si c'est la sécheresse, bah, tout meurt. La sécheresse, eh bien, quand il n'y a pas d'eau, toutes les choses meurent, tout simplement. Ainsi que l'eau est indispensable à toute vie physique, eh bien, c'est la figure de la grâce avec laquelle notre âme produit une riche moisson de vertu et de mérite. Donc, si nous avons la grâce, évidemment, nous allons avoir beaucoup de vertu, beaucoup de mérite. Mais sans l'eau, eh bien, nous sommes incapables, sans la grâce, nous sommes incapables de produire aucun fruit de salut. Et nous demeurons à jamais stériles pour le ciel. Parce que si nous n'avons pas la grâce, nos bonnes œuvres, ce que nous pouvons faire de bien, il existe des œuvres naturelles que nous faisons, elles restent purement naturelles. Et en revanche, avec la grâce, elles peuvent s'élever jusqu'au ciel. C'est ce que dit notre Seigneur aussi. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. C'est-à-dire que nos œuvres que nous ferons avec la grâce, elles seront objets de mérite et elles nous serviront pour le ciel, pour le bonheur du ciel. Oui, elle jaillira pour la vie éternelle. Donc si nous n'avons pas l'eau de la grâce, si nous n'avons pas la grâce, eh bien nos œuvres resteront purement naturelles, donc elles ne nous serviront à rien pour le ciel. Et sainte Thérèse d'Avila disait justement dans sa vie écrite par elle-même, dans son autobiographie, voilà ce qu'elle dit à propos de ce passage. Que j'aime cet endroit de l'Évangile, donc ce discours à la Samaritaine. Dès ma plus tendre enfance, sans comprendre comme maintenant le prix de ce que je demandais, je suppliais très souvent le divin Maître de me donner de cette eau admirable. Et partout où j'étais, j'avais toujours un tableau qui me représentait ce mystère, avec ces paroles écrites au bas, « Domine, damiki anc aquam, Seigneur, donnez-moi de cette eau. » Vous voyez, comme sainte Thérèse d'Avila, effectivement, aimait beaucoup méditer sur ce passage. Hein, effectivement, nous voyons bien dans ce passage comment notre Seigneur, vous voyez, montre les effets de la grâce. Et on peut dire, bon, si on distingue après avec tout ce qu'ont fait les théologiens, je vous ai dit que l'eau purifie, elle rafraîchit, elle désaltère. Eh bien ça, c'est le propre de ce qu'on appelle la grâce médicinale, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gratia sanans, la grâce qui nous guérit, hein, qui nous guérit tout simplement du péché, des infirmités du péché. Et puis l'autre partie, au contraire, qui élève nos facultés, nos actes au-dessus des exigences et des forces de la nature, hein, qui va nous faire rendre méritoires nos œuvres naturelles, méritoires de la vie éternelle, qui va nous faire devenir ainsi en nous le principe d'une vie supérieure et divine, eh bien, c'est le fruit de ce qu'on appelle la grâce élévante, la grâce qui élève, la grâce proprement surnaturelle, qui va nous faire passer de la nature à la surnature. La gratia élévante, c'est ce qu'on trouve déjà dans ces exemples de notre Seigneur. Voilà un peu déjà comment notre Seigneur explique, vous voyez, à cette Samaritaine ce que c'est que la grâce, hein, par cet exemple de l'eau, les effets. Bien maintenant, après avoir vu un peu la grâce, l'explication donnée par notre Seigneur au niveau des effets, bien si on devait voir quand même un peu la définition, qu'est-ce que c'est que la grâce habituelle, la grâce sanctifiante. Bon, le catéchisme aussi en donne cette définition, c'est un don surnaturel, inhérent à l'âme, qui nous rend juste, saint et agréable à Dieu. Ce don qui va nous rendre juste, saint, agréable à Dieu. Donc pourquoi on appelle cette grâce habituelle? Parce que c'est un don permanent, hein, qui demeure dans l'âme comme une habitude. Tant que, évidemment, que le péché mortel ne la fait pas disparaître. D'où vous voyez pourquoi on appelle le péché grave un péché mortel? Parce que précisément, elle donne la mort à la vie surnaturelle. Elle ne donne pas la mort à notre âme, la vie naturelle de notre âme. Notre âme ne mourra plus, c'est évident, elle est immortelle. Mais la vie spirituelle, la vie surnaturelle, elle, par contre, par le péché grave, c'est-à-dire qui nous fait détourner de Dieu, eh bien, nous pouvons la perdre. Mais en principe, si nous ne commettons pas de péché mortel, eh bien, nous gardons cet état de grâce, justement cette grâce habituelle. On l'appelle aussi grâce sanctifiante, parce qu'il y a cette idée de purification et de perfection, hein, qui est attachée au mot saint, tout simplement. Hein, parce qu'en effaçant les péchés, eh bien, elle rend notre âme sainte. On appelle aussi état de grâce, hein, quand on dit que nous sommes en état de grâce, ça veut dire que nous possédons cette grâce habituelle, parce que l'âme qui la possède, justement, est constituée dans l'amitié de Dieu. Nous sommes dans l'état d'amitié de Dieu, état de grâce. Pourquoi on dit aussi que cette âme cette grâce, pardon, est inhérente à l'âme, parce que c'est une qualité qui affecte d'une manière permanente et immédiate la substance même de notre âme. Elle est vraiment, comment dire, attachée à notre âme, si vous voulez. Elle affecte immédiatement la substance de notre âme. Vous avez Don Marmion qui explique toujours très bien ces grandes vérités de notre foi. Ça, si vous ne l'avez pas encore lu, je peux que vous conseiller de le lire. Don Marmion, Christ vit de l'âme, par exemple, ou Christ dans ses mystères. Vous avez des choses magnifiques. Et voilà, dans Christ vit de l'âme, qu'est-ce qu'il nous dit ? La grâce est une qualité intérieure, produite en nous par Dieu, inhérente à l'âme, ornant l'âme et la rendant agréable à Dieu. Tout comme dans le domaine naturel, la beauté et la force sont des qualités du corps, le génie et la science des qualités de l'esprit, et la loyauté et le courage des qualités du cœur. Selon saint Thomas, cette grâce est une similitude participée de la nature de Dieu. La grâce nous rend d'une façon, dont le dernier fond nous échappe, participant de la nature de Dieu. Nous sommes par la grâce élevés au-dessus de notre nature. J'espère que vous avez bien compris, ça nous permet d'être élevés au-dessus de notre nature pour être avec Dieu. Nous devenons en quelque sorte des dieux. Nous ne devenons pas égaux, mais semblables à Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur disait aux Juifs, n'est-il pas écrit dans vos livres sacrés, j'ai dit, voici que vous êtes des dieux. La participation pour nous à cette vie divine se réalise donc par la grâce, en vertu de laquelle notre âme devient capable de connaître Dieu comme Dieu se connaît, d'aimer Dieu comme Dieu s'aime, de jouir de Dieu comme Dieu est rempli de sa propre béatitude, et ainsi de vivre de la vie de Dieu lui-même. C'est merveilleux. Et justement, pour approfondir un peu ce que dit Don Marmion, c'est cette qualité nous rend, selon l'expression de saint Pierre dans sa première épître, participants de la nature divine. Donc avec la grâce, nous devenons participants de la nature divine. Ça, c'est les mots mêmes de saint Pierre. Donc c'est dans sa deuxième épître, si vous voulez retrouver le passage. Deuxième épître de saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Nous devenons vraiment participants de la nature divine. Bien sûr, cette grâce ne nous fait pas, comme dit Don Marmion, des égaux de Dieu. Nous ne sommes pas égaux à Dieu, c'est clair. Mais nous devenons des êtres qu'on peut dire déiformes, c'est-à-dire semblables à lui. Et cette grâce nous donne non pas la vie divine elle-même, qui est essentiellement incommunicable, évidemment, mais une vie semblable à la sienne. Voilà ce que dit aussi un autre auteur, Tancret. Il nous dit que la vie propre de Dieu, c'est de se voir lui-même directement et de s'aimer infiniment. Nulle créature, si parfaite qu'on la suppose, ne peut par elle-même contempler l'essence divine qui habite une lumière inaccessible. Mais Dieu, par un privilège entièrement gratuit, appelle l'homme à contempler cette divine essence dans le ciel. Alors nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons comme il se voit lui-même, ou ce qui est la même chose, comme il est en lui-même. Donc nous participerons, quoi, d'une manière finie, à la vie même de Dieu, puisqu'à la lumière divine, nous le connaîtrons de la façon dont il se connaît. Or, la grâce habituelle est déjà une préparation à la vision béatifique et comme un avant-goût de cette faveur. C'est le bouton qui déjà contient la fleur, bien que celle-ci ne doive s'épanouir que plus tard. Elle est donc du même genre que la vision béatifique elle-même et participe à sa nature. Vous voyez, c'est de grandes vérités. En effet, par la grâce, nous sommes vraiment participants de cette nature divine. Et notre Seigneur, d'ailleurs, le dit dans l'Évangile, dans plusieurs passages, par exemple dans saint Jean, chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez, il ne dit pas « aura la vie éternelle ». Il dit « il a la vie éternelle ». Ça veut dire celui qui croit en moi, donc celui qui a la foi, donc qui possède cette grâce, eh bien, il est en moi, je suis en lui, voilà ce que ça veut dire. Il a la vie éternelle. C'est-à-dire que non seulement il l'aura plus tard, mais en un sens, il l'a déjà. Pourquoi ? Parce que la vie de la grâce, c'est déjà la vie éternelle commencée. Pourquoi ? Parce que c'est en effet la même vie en son fond. Là, il prenait le bouton par rapport à la fleur, mais on peut dire comme le germe qui est dans le gland a la même vie que le chêne qui est développé. C'est exactement la même vie. Dans un petit gland, ou si vous voyez ce chêne immense, énorme, c'est la même vie. C'est exactement la même vie qu'il y a dans le gland qui ensuite s'épanouit dans ce chêne immense. Ou bien, si vous voulez, c'est comme nous, lorsque nous étions un petit bébé, l'âme que nous avions, elle, comme nous sommes enfants, eh bien, elle s'épanouit hein, lorsque nous sommes adultes. Et c'est exactement la même vie. Entre un petit bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, la personne âgée, c'est exactement la même vie. Exactement. Donc on s'épanouit. Eh bien, c'est pareil, la grâce. Quand nous la recevons, nous l'avons en nous, eh bien, nous l'avons en germe, et c'est elle qui s'épanouira dans la vie éternelle. Vous voyez ce trésor de la grâce. Et notre Seigneur aussi, à un autre endroit, quand ce fameux discours du pain de vie, donc c'est chapitre 6, verset 55, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Pareil, il ne dit pas « aura la vie éternelle », il a la vie éternelle. Donc vraiment, la vie de la grâce est dès ici-bas le germe de la gloire. Comme nous dit là le père Garrigou-Lagrange, c'est pourquoi saint Thomas aime à dire « Le moindre degré de grâce sanctifiante contenu dans l'âme d'un petit enfant après son baptême est quelque chose de plus précieux que le bien naturel de tout l'univers, y compris toutes les natures angéliques prises ensemble. Car le moindre degré de grâce sanctifiante est d'un ordre immensément supérieur, de l'ordre de la vie intime de Dieu, supérieur à tous les miracles et à tous les signes extérieurs de la révélation divine. » Vous voyez, le petit enfant, après son baptême, qui se trouve maintenant en état de grâce, c'est quelque chose de beaucoup plus important que tout le bien naturel de l'univers, et que même de toutes les natures angéliques, etc. Parce que c'est vraiment d'un ordre supérieur à l'univers. C'est de l'ordre de la vie même de Dieu, la vie intime de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que de sujet de contemplation. C'est la même vie surnaturelle, la même grâce sanctifiante qui est dans le juste ici-bas et dans les saints du ciel. C'est aussi la même charité infuse, avec deux différences. Ici-bas, nous connaissons Dieu non pas dans la clarté de la vision, mais dans l'obscurité de la foi infuse. Et de plus, bien que nous espérions le posséder d'une façon inadmissible, ici-bas, nous pouvons le perdre par notre faute. Voilà les deux différences. C'est effectivement, nous n'avons pas la pleine clarté que nous aurons dans le ciel. Là, nous verrons vraiment Dieu face à face. Et malheureusement, nous pouvons aussi perdre cette grâce. Alors que dans le ciel, une fois qu'on sera au ciel, on ne peut pas perdre cette grâce. Voilà les seules, disons, les deux différences. Mais en soi, c'est exactement la même vie surnaturelle que nous aurons dans le ciel. Mais, comme continue le père Garrigou, mais malgré ces deux différences relatives à la foi et à l'espérance, c'est la même vie, parce que c'est la même grâce sanctifiante et la même charité. Elles doivent durer éternellement. Donc essayons d'être persuadés de cette grandeur de la grâce, de la vie de la grâce. Et notre Seigneur, lui aussi, prendra un autre exemple pour essayer de faire comprendre aussi à ses apôtres cette grandeur de la grâce. Il va prendre l'exemple de la vigne. Et ça, il va le faire justement son discours après la scène, donc avant son agonie. Ça, vous trouvez ça, c'est Saint Jean chapitre 15. Vous pouvez lire, là aussi, c'est un sujet de méditation, tout ce grand discours après la scène sur la grâce, sur la charité, vraiment le testament de notre Seigneur. Donc c'est les chapitres 14, 15, 16, et puis la prière de notre Seigneur, chapitre 17. Ça, vous pouvez les lire, relire, méditer. Ça, c'est vraiment de magnifiques discours. En ce qui nous concerne, voilà ce qu'il dit notre Seigneur, chapitre 15. « Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout serment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sament qui porte du fruit, il les monte pour qu'ils portent encore plus de fruits. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Vous êtes la vigne, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Notre Seigneur prend donc cet exemple de la vigne. Il est le pied, le cep, si vous voulez. Nous sommes les branches. Or, qu'y a-t-il de commun entre le pied, le cep et le sarment? Qu'y a-t-il de commun? La sève. La sève qui passe du pied dans les sarments. Et la sève, c'est la grâce. C'est la vie divine. Ce qui nous permet précisément de vivre. Quand nous sommes en état de grâce, quand nous avons la grâce, nous vivons, nous portons du fruit. Alors vous voyez, notre Seigneur, de temps en temps, mon Père l'émonde, il coupe. Ça, selon les épreuves. Ce sont les épreuves que nous pouvons avoir, les souffrances. Mais ensuite, nous portons plus de fruits. Mais si nous nous détachons, si la branche est cassée, la sève ne passe plus. Et donc, ça veut dire que c'est celui qui a perdu l'état de grâce. Et alors, dans ce cas-là, il sèche. Et on le met au feu. Celui qui paraît comme ça devant le bon Dieu, vous savez, c'est l'enfer. Il est loin de Dieu, il est coupé de Dieu. Dans l'éternité, être loin de Dieu, c'est l'enfer, tout simplement. Donc, vous voyez, notre Seigneur nous explique aussi cette grâce par l'image de la vigne. Vraiment belle image, exactement. Donc, nous avons vraiment reçu un trésor le jour de notre baptême. Et si nous avons eu le malheur de le perdre, ce trésor, eh bien, nous avons pu le récupérer. Le bon Dieu nous l'a redonné par l'acte de contrition parfaite ou, bien sûr, le sacrement de pénitence. L'acte de contrition parfaite qui inclut d'ailleurs le désir de se confesser. Donc, le sacrement de pénitence nous a redonné la grâce si nous l'avions perdue. Mais voyez, j'espère que vous avez bien compris ce trésor de la grâce. Qu'est-ce que c'est que cette grâce sanctifiante habituelle? Seulement, nous le savons, nous sommes faibles. Et cette grâce, nous la portons vraiment dans un vase d'argile. Alors, il va nous falloir des secours. Le bon Dieu ne va pas nous laisser tomber. Il dit, maintenant, tu as ce trésor dans ce vase d'argile, et débrouille-toi. Non, il va nous donner des secours. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la grâce actuelle. Donc, nous arrivons à la grâce actuelle. La grâce actuelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un secours surnaturel, bien sûr, mais passager, transitoire, que Dieu nous donne pour éclairer notre intelligence, ou alors pour fortifier notre volonté, et bien sûr pour nous aider à faire le bien, éviter le mal. Secours surnaturel, passager, que Dieu nous donne pour nous aider à faire le bien, éviter le mal. Ça, c'est la définition du catéchisme. Voilà comment explique Dom Armion, toujours dans le Christ vie de l'âme, cette vérité de la grâce actuelle. Vous savez que dans l'ordre naturel, Dieu, par son action, nous soutient sans cesse dans l'existence et dans l'exercice de nos actes. C'est le concours divin. Ça, nous en avons parlé. Vous avez entendu la cassette de Mgr Lefebvre qui nous parle qu'effectivement, Dieu nous donne l'existence, mais en plus, il nous soutient dans l'existence. On appelle ça le concours divin. Ce concours divin existe aussi dans l'ordre surnaturel. Nous ne pouvons jamais agir surnaturellement que si Dieu nous donne la grâce d'agir. Cette grâce, à cause de son effet transitoire, se nomme actuelle, grâce actuelle. En opposition dans notre langage à la grâce sanctifiante, qui étant de sa nature permanente, s'appelle grâce habituelle. Donc cette grâce actuelle fait partie de cet ensemble admirable qui, avec la grâce sanctifiante, les vertus infuses, les dons du Saint-Esprit, constituent l'ordre surnaturel. Dans l'exercice ordinaire de la vie surnaturelle, elle n'est autre que le concours divin appliqué à l'ordre surnaturel. Mais dans des occasions spéciales, qui résultent de l'état de notre âme depuis le péché originel, ténèbres de notre intelligence, faiblesse de notre volonté, distraite de la recherche du vrai bien, infinie par la concupiscence, le démon et le monde, eh bien, ce concours divin se traduit et se manifeste d'une manière également spéciale. Illumination particulière de l'intelligence. On peut avoir une grâce comme ça particulière. Ah oui, tiens, ça je comprends. Force plus grande donnée à la volonté pour résister à une grave tentation. Là aussi, on peut avoir des graves tentations, puis on prie, et puis tout d'un coup, la tentation s'en va. Voilà, on a eu cette grâce de résister. Ou donc donner à la volonté pour résister à une tentation, ou accomplir une œuvre ardue. Sans ce secours particulier que Dieu accorde à la prière, nous ne pourrions atteindre le but suprême. Nous ne pourrions persévérer dans la justice, comme le dit le Concile de Trente. Donc ce secours passager que Dieu nous donne, justement, pour rester précisément en état de grâce. Alors vous avez dans l'histoire hein, des exemples d'infidélité à la grâce, hein, des gens qui n'ont pas été fidèles à la grâce. Bon, vous avez le pharaon d'Égypte hein, avec les 10 plaies d'Égypte. Vous voyez quand Moïse vient lui demander de délivrer le peuple d'Égypte, donc de le laisser partir, ce peuple hébreu, le pharaon dit non. Alors bah, Moïse, par Dieu, bah, il va avoir toutes ces plaies, hein, ces fameuses 10 plaies. Des mouches partout, des sauterelles qui envahissent, toute l'eau qui se transforme en sang, les ténèbres pendant plusieurs jours, etc. Enfin, vous avez 10. Et puis à chaque fois, le pharaon dit non, il s'endurcit. Alors jusqu'à la dernière épreuve, la mort des premiers-nés. Donc tous les premiers-nés, que ce soit chez les animaux ou chez les hommes, qui sont tués. Bon, sauf ceux des Hébreux, vous savez, avec le sang de l'agneau pascal. Donc là, Pharaon, il cède quand même. Il dit, bon, ben, voyant ce désastre dans tout son royaume, il dit, bon, allez, cette fois-ci, partez. Mais une fois que les Hébreux partent, il se dit, mais non, c'est pas possible, je vais perdre mes esclaves. Donc il envoie son armée à la suite des Hébreux, et puis vous connaissez le passage de la mer Rouge, et puis toute son armée engloutie. Donc vous voyez, lui, c'est l'exemple de quelqu'un qui a refusé la grâce. Non, il a refusé. C'est un exemple un peu plus célèbre, évidemment, enfin célèbre, aussi dans le Nouveau Testament, c'est Judas. Vous voyez comment Judas a été infidèle à la grâce. Il vivait avec notre Seigneur, et malgré ça, il volait, comme dit Saint Jean, c'était un voleur. Et puis ensuite, eh bien, comment il a trahi son maître. Et pourtant, notre Seigneur, jusqu'au bout, va lui donner des grâces pour qu'il revienne, qu'il se repente. Par exemple, au Jeudi Saint, lavement des pieds. Notre Seigneur lave les pieds de Judas. Judas aurait pu dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aller livrer mon maître, et voilà qui me lave les pieds. Non. Au Jardin des Oliviers, à l'arrestation, notre Seigneur montre sa puissance. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Flan, tout le monde par terre. Tout le monde par terre. Alors il se relève péniblement. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, je vous ai dit que c'est moi. Ben là, Judas aurait pu dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je livre mon maître, etc. Donc vous voyez, Judas refuse. Ou même juste avant, quand Judas donne ce baiser à notre Seigneur, et notre Seigneur lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Ça aurait dû faire réfléchir, de dire, non, refuse la grâce. Vous voyez, des exemples d'infidélité à la grâce. Par contre, vous avez aussi des exemples de fidélité à la grâce. Bon, Saint Paul, par exemple, la conversion de Saint Paul, sur son cheval, tranquillement, puis tout d'un coup, lumière éblouissante, le cheval qui se cabre, Saint Paul qui tombe, et puis évidemment, la voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Bon, là, il aurait pu dire oui ou non. Il a dit oui. Et ça est devenu le grand Saint Paul. On peut reprendre au moment de la passion de notre Seigneur Saint Pierre. Regardez Saint Pierre qui va trahir son maître. Je ne connais pas cet homme. Non, je ne connais pas cet homme. Non, trois fois, je ne connais pas cet homme. Et puis, à ce moment-là, le coq chante et puis notre Seigneur passe dans la cour. Et notre Seigneur regarde Saint-Pierre. Et Saint-Pierre croise le regard de notre Seigneur. Et bien là, il est bouleversé. Bouleversé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trahi mon maître. Et l'Évangile nous dit, il sortit en pleurant. Il se met à pleurer, il sort de la cour et c'est fini. Il regrette sa faute. Vous voyez? La grâce, alors que Judas, lui, n'a pas regretté, Saint-Pierre, lui, a regretté tout de suite. Vous voyez? Fidélité, infidélité à la grâce. Parce qu'on va le voir après, évidemment, qu'est-ce qui fait la différence? C'est notre liberté. Mais cette grâce actuelle, bien sûr, important de le noter, est nécessaire. Nécessité de la grâce actuelle. Sans la grâce actuelle, on ne peut absolument rien dans l'ordre surnaturel. On ne peut rien. Et vous avez ça dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, dans le chapitre 15 de Saint Jean, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais là, vous allez me dire, mais attendez, je ne comprends pas. Je vois des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui sont capables de construire des maisons, qui sont capables de construire, je ne sais pas quoi, des satellites, d'aller sur la Lune, bientôt sur Mars. Donc, ce n'est pas forcément des catholiques et ils arrivent bien à faire quelque chose. Donc, comment sans moi, vous ne pouvez rien faire? Non, il s'agit évidemment de l'ordre surnaturel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire qui puisse vous servir pour aller au ciel. Voilà sous-entendu, pour aller au ciel, donc dans l'ordre surnaturel. Bien sûr que de manière purement naturelle, les païens, comme on dit, peuvent faire des œuvres bonnes, c'est clair. Bonnes naturellement. Mais ça ne sert à rien si nous n'avons pas la grâce pour le ciel. Alors cette nécessité de la grâce actuelle, donc pour aller au ciel... La grande question qui peut se poser, mais est-ce que cela enlève notre liberté? Et donc je ne suis plus libre. S'il est nécessaire pour moi d'avoir la grâce pour aller au ciel, pour faire tout simplement le bien qui me permet d'aller au ciel, ben, comment puis-je rester libre? Non, cela n'enlève pas notre liberté. Parce que précisément la grâce laisse à l'homme la liberté pleine et entière d'y coopérer. Et ça, c'est important, la coopération. Saint Augustin, en effet, nous dit « Dieu qui nous créa sans nous ne nous sauve pas sans nous. » Ça, c'est vrai, à retenir. « Dieu qui nous créa sans nous ne nous sauve pas sans nous. » Donc ça, c'est justement les deux. Il faut la grâce et en même temps notre coopération. D'une part, et ça il faut le tenir, c'est vrai, l'homme ne peut pas se justifier, ne peut pas se sauver, ne peut pas se sanctifier seul par ses propres moyens. Donc la nécessité de la grâce, ça c'est clair. Ça je pense que vous l'avez bien compris, c'est vraiment d'un autre ordre, d'ordre surnaturel, donc il nous faut vraiment cette grâce pour pouvoir nous sauver, nous sanctifier. Donc ça c'est le côté qu'il faut tenir. Dieu... nous a donné la grâce, veut que nous ayons cette grâce. Mais d'autre part aussi, c'est l'autre côté qu'il faut tenir, sa coopération, la coopération de l'homme est requise. Elle est même indispensable. De telle sorte que cette œuvre soit également la sienne. Et d'ailleurs, ce qui va être pour nous la source de mérite, qui va permettre de mériter une récompense. Qu'est-ce que c'est que un mérite? C'est un droit à une récompense. Donc en même temps, par notre collaboration, notre coopération à la grâce, nous allons obtenir des mérites. Nous allons avoir droit à une récompense. Et Dieu va nous récompenser en fonction de nos œuvres. Donc vous voyez, il y a les deux. Il nous faut la grâce, mais ensuite il faut coopérer à la grâce. Il nous faut absolument les deux. Et en même temps, Dieu va nous récompenser de nos efforts. Donc il y a les deux. Il y a cette liberté que Dieu nous a donnée et en même temps cette nécessité de la grâce. Alors, ce qui fait qu'on peut résumer un petit peu tout ça, parce que, bien sûr, il y en a qui peuvent se poser des questions, mais je crois, même si on ne comprend pas tout jusqu'au bout, comment les deux s'allient entre la nécessité de la grâce et notre liberté, néanmoins, il faut bien dire que Dieu accorde à tout homme une grâce suffisante pour faire son salut. Ça, c'est clair, ça, c'est une vérité. Dieu veut le salut de tous. Donc, Dieu accorde à tous les hommes une grâce suffisante pour faire son salut. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de prédestination à l'enfer, hein, comme nous disent les calvinistes, par exemple. Non. Dieu donne à tous une grâce suffisante pour faire son salut. Mais ensuite, lorsque cette grâce obtient le résultat souhaité, c'est-à-dire que nous sommes sauvés, eh bien c'est Dieu seul qui la rend efficace. Mais lorsque cette grâce manque son but, c'est-à-dire que si l'homme n'est pas sauvé, eh bien, c'est l'homme seul qui l'empêche de produire ses effets. Donc, si vous voulez, l'homme justifié par la grâce doit tout à Dieu, Et l'homme que la grâce ne parvient pas à justifier ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est l'homme qui pose un obstacle à la grâce. Ce qui fait que, d'une manière assez raccourcie, on peut dire qu'en enfer, il n'y a que des volontaires. Parce que, précisément, c'est ceux qui ont refusé la grâce. C'est-à-dire, ceux qui seront en enfer sauront pourquoi ils sont en enfer. Parce que, précisément, ils auront mal usé de leur liberté. Ils auront refusé la grâce de Dieu. Et quand nous serons au ciel, ceux qui seront au ciel, eh bien, on saura que c'est vraiment grâce à Dieu, grâce précisément à ce secours de Dieu, que nous serons au ciel. Et donc, toute notre éternité, entre autres, passera à remercier le bon Dieu de nous avoir fait cette grâce. En conclusion, eh bien, essayons de bien méditer sur l'importance de cette grâce, de ce secours dont nous avons besoin. Si vraiment cette vie de la grâce est une vie nouvelle, ça c'est clair, j'espère que vous l'avez bien compris, hein, qui va nous unir et nous assimiler à Dieu. Et cette vie de la grâce est une vie, bien sûr, beaucoup plus parfaite que la vie naturelle. Donc c'est vraiment le trésor caché qu'il nous faut garder. Et donc ce trésor, quand on le possède, eh bien, il faut tout sacrifier plutôt que s'exposer à le perdre. Plutôt la mort que le péché. Tous les saints ont toujours dit ça. Plutôt la mort que le péché. Plutôt mourir que perdre l'état de grâce. Et si vous avez bien compris ce que c'est que la grâce, cette vie divine de Dieu en nous, on comprend. C'est logique. Ah oui, dans ce cas-là, je préfère que Dieu me rappelle à lui avant que je perde cette grâce. Je préfère mourir jeune, même que plutôt que de perdre cette grâce. Ça, c'est clair. Et le pape Saint Léon le disait, « Reconnais ta dignité de chrétien et devenu participant de la nature divine, ne reviens pas par une vie indigne à ta première bassesse. » Donc, essayons de bien méditer sur cette vie de la grâce, ce trésor que nous avons en nous. Bien sûr, cela n'enlèvera pas les difficultés, nous en aurons toujours. Mais dans les difficultés, souvenons-nous de ce que Dieu disait à Saint Paul. Saint Paul qui, justement, déjà se plaignait à Dieu de toutes ses difficultés. « Seigneur, j'ai beaucoup de difficultés, j'arrive pas, j'ai des tentations, etc. » Il parle de cette fameuse écharpe dans la chair, etc. Qu'est-ce que Dieu lui répond ? « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. Donc demandons dans les difficultés la grâce de Dieu et Dieu nous l'accordera. Et sa grâce nous suffira justement à passer au-dessus des difficultés. Et rappelez-vous aussi, en conclusion, je vous donne cette phrase de saint Augustin qui doit nous encourager. Dieu ne commande jamais l'impossible. Mais en commandant, il nous dit de faire ce que nous pouvons, de demander ce que nous ne pouvons pas, et il nous aide pour que nous le puissions. Je répète, Dieu ne commande jamais l'impossible, mais en commandant, il nous dit de faire ce que nous pouvons, de demander ce que nous ne pouvons pas, et il nous aide pour que nous le puissions. Donc, pas de découragement. Et je termine par une note d'humour. Certaines d'entre vous, peut-être, connaissent cette prière. C'est juste un jour, au début de mon ministère, donc j'ai commencé mon ministère en Bretagne. Donc, à l'occasion, je suis rentré dans une église et j'ai trouvé une prière dans cette église. Et je vais vous la lire tout simplement parce qu'elle est drôle, prenez-la, vous verrez, mais en soi, elle est très profonde. C'est ce qu'appelle la prière d'une petite cruche. Donc déjà rien que le titre. Voilà la prière qu'on peut faire d'ailleurs, qu'on peut faire soi-même. Seigneur, excusez-moi si je vous dérange. Il m'est venu tout à l'heure à l'idée que vous aviez peut-être besoin d'un saint. Alors, je suis venu pour la place. Je ferai très bien l'affaire. Quoi qu'on en dise, le monde est rempli de gens parfaits. Il y en a qui vous offrent beaucoup de sacrifices. Et pour que vous ne vous trompiez pas en les comptant, ils les marquent avec une petite croix sur un carnet. Moi, je n'aime pas faire des sacrifices. ça m'ennuie énormément. Ce que je vous ai donné, Seigneur, vous savez bien que vous l'avez pris sans permission. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas rouspéter. Il y a aussi des gens qui se corrigent d'un défaut par semaine. Ils sont forcément parfaits au bout d'un trimestre. Moi, je n'ai pas assez confiance en vous pour faire ça. Qui sait si je vivrai encore au bout de la première semaine? Vous êtes si imprévisible, si impulsif, mon Dieu. Alors, j'aime autant garder mes défauts en m'en servant le moins possible. Les gens parfaits ont autant de qualités qu'il n'y a plus de place en leur âme pour autre chose. Ils n'arriveront jamais à être des saints. D'ailleurs, ils n'en ont pas envie, de peur de manquer à leur humilité. Mais Seigneur, un saint, c'est un vase vide que vous remplissez de votre grâce, qui déborde de votre amour, de votre sainte Trinité. Or, Seigneur, je suis un vase vide, avec un peu de boue au fond. Ce n'est pas propre, je le sais bien. Si vous ne voulez pas de moi non plus, Seigneur, je n'insisterai pas. Réfléchissez pourtant à ma proposition, elle est sérieuse. Quand vous irez dans votre cellier, rappelez-vous que vous avez quelque part sur la terre une petite cruche à votre disposition. Voilà la prière d'une petite cruche. Eh bien, essayons d'être peut-être des petites cruches, c'est ça, la sainteté, c'est se laisser remplir tout simplement par la grâce de Dieu. Alors, vous avez bien compris ce que c'est que la grâce. Alors, sachons maintenant demander au bon Dieu, eh bien, de nous remplir précisément de sa grâce. Alors, nous allons maintenant à la chapelle, à l'église.